What do you want? Information.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 22e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de débat, d'analyse, de partage, d'accord et de désaccord autour d'une série et d'une thématique, toujours dans la passion critique et la joie journalistique.
Next one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés cette semaine, Anne Eligon des Fiches du Cinéma. Bonjour Anne.
Bonjour Pierre.
Marion Olité de Combini. Salut Marion.
Salut Pierre.
Et Eric Bouche de Téléstar. Hello Eric.
Salut Pierre.
Au menu cette semaine, une des toutes meilleures séries françaises de ces dernières années, Le Bureau des Légendes, qui vient d'entamer sa 3e saison sur Canal+, tous les lundis soirs. On y retrouve Guillaume de Bailly, alias Malotru, agent de la DGSE en bien mauvaise posture, et tous les membres des services secrets français entre Paris, la Syrie et l'Irak et ailleurs d'ailleurs. Entre autres destinations touristiquement peu recommandables, Le Bureau des Légendes 3e prise, c'est tout de suite dans un épisode et j'arrête.
Afin d'éviter la crise entre la France et les États-Unis, nous vous avions communiqué le nom de votre agent qui nous avait proposé ses services, Paul Lefebvre. Certains chez nous se posent des questions aujourd'hui sur ce qui va se passer une fois que Paul Lefebvre est libéré. Et nous espérons tous qu'il le sera. Sachant alors qu'il sera très difficile de soustraire à la presse. Qu'allez-vous en faire? Comment allez-vous le sanctionner sans que cela devienne public?
Nous comptons faire comme vous faites d'habitude. Nous agissons d'abord, nous réfléchissons ensuite.
D'après nos statistiques, un otage occidental aux mains de l'État islamique a 25% de chances de s'en sortir vivant.
Et si c'est un agent?
0%. Si Paul Lefebvre revenait en France, cela tiendrait donc du miracle. La question est, croyons-nous au miracle?
Chers amis, puisqu'on va parler d'une saison 3, un petit avertissement de circonstances s'impose. Si vous n'avez pas vu les saisons 1 et 2, vous allez sans doute vous faire spoiler un peu, puisqu'il va nous falloir parler concrètement d'où part cette saison 3. Ceci étant dit, nous n'irons pas au-delà du point de départ de la saison et nous ne révélerons rien de ce qui se passe au-delà des épisodes 1 et 2 vus la semaine dernière sur Canal+. Plus globalement, et je termine là-dessus mon avertissement à rallonge, nous n'aimons pas les spoilers, alors nous serons donc prudents. Voilà donc, ça c'est dit. Maintenant, causons un peu de la série elle-même. Qui peut me dire où nous en sommes à l'ouverture de cette saison 3 du Bureau des Légendes. Petite mise en situation, Marion, visiblement tu es montré du doigt par tes camarades qui sont un peu lâches, donc tu vas prendre le risque de
c'est
d'y aller.
C'est pas très cool.
Voilà.
Bon d'accord, on avait quitté Malotru, aka Paul Lefebvre, aka Guillaume de Bailly. Oui, en effet, en très mauvaise posture. Je crois qu'il y avait une très grosse explosion à la fin de la saison 2. Il avait réussi plus ou moins à quand même faire déclencher un truc pour tuer un des lieutenants de Daesh. Bon, donc on le retrouve, il est otage de Daesh, bon, il est pas mort, bon, ça, on s'en doutait bien.
On sait pas s'il est mort ou vif.
À la fin de la 2, non, mais on s'en doute bien que, enfin.
Et puis on a tous vu les bandes annonces.
Les teasers,
et puis, voilà. Les deux premiers épisodes ayant été diffusés, on peut dire, il est pas mort.
Clairement, il est pas mort, mais il est otage de Daesh.
Il est pas mort, mais.
Voilà. On va le suivre, du coup, bon, bah, on va suivre, voilà, sa détention et on va le suivre dans des conditions.
Tentative de libération qui vont suivre.
Dans des conditions assez extrêmes, on l'a jamais vu comme ça, en fait, hein. Là, il est,
avec
il est otage,
avec
il va subir des
barbes. On a derrière nous sur un écran, là, donc, voilà, il est en petite forme, ouais.
Voilà.
Et le problème, c'est aussi qu'il avait quand même trahi ses amis en bossant pour la CIA. Allez. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que ses amis sont prêts à tout pour le sauver alors que c'est un traître?
Et évidemment, parallèlement à tout ça, on a la vie du bureau au quotidien. C'est un des intérêts de cette série, c'est que on n'est pas seulement sur le terrain, mais on est dans les locaux de la DGSE au quotidien et à la Cantoche d'ailleurs assez régulièrement. Et on a aussi le parcours de Marina Loiseau. Alors là, on peut pas rentrer trop dans le détail parce qu'il va un peu évoluer au cours de la saison, mais en tout cas, on va la voir elle mener une opération presque en parallèle. Hein. C'est très peu lié à l'intrigue à Guillaume de Baillet.
Bah non, mais en tout cas, si on revient à la fin de la saison 2, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle échappe à une tentative d'assassinat assez hardcore en Iran. Elle réussit donc à revenir en France au début de la saison 2. Et sans parler de la mission ou de ce qui va lui arriver après, en tout cas déjà dans les premiers épisodes, on fait face aux conséquences, les conséquences psychologiques que cette tentative d'assassinat a eu sur elle. Elle qui est toujours quelqu'un de voilà de très posé, qui a toujours su maîtriser la situation. Là, on va la voir aussi dans une position complexe où elle n'arrive pas à se contrôler.
Alors, avant d'analyser plus en profondeur cette saison 3, revenons sur les deux précédentes qui ont été diffusées, chose rare, ces deux dernières années, évidemment, on en parlera. L'ambition d'Éric Rochon, son créateur, était très fortement mise en avant dans la saison 1, la plus sobre, la plus stricte, oserais-je dire. C'est-à-dire que le Bureau des légendes, au départ, c'était une série de bureaux, je viens de le dire, mais c'était ça au début. Anne.
Ben non, c'est pas une série de bureaux.
Ah si, à la base.
Non, c'est pas une série de bureaux, c'est une série de légendes. T'as pas bien lu. Donc c'est une série de légendes, c'est une série d'espions qui, bon, je sais pas si on rappelle ce que c'est que la légende,
qui est une. C'est ce qui est en dessous les photos.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui constitue la fausse identité sous laquelle les agents travaillent. Enfin, non seulement une fausse identité, mais il y a un faux CV aussi, hein, une fausse vie. Non, c'est une série d'espions, parce que c'est le dada de Rochon quand même depuis Les Patriotes, depuis Mobius, des films qui n'ont pas été très très bien accueillis, et je pense que là c'est sa revanche, et que finalement c'est dans ce format-là qu'il réussit à faire son film d'espionnage qu'il n'a pas bien réussi à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi?
Mais du coup, j'en profite pour te couper la parole, ouais, et j'insiste, c'était une série de bureaux au début. Moi, c'était un truc qui me dérangeait, c'est que c'était très austère, c'était vraiment,
il y avait beaucoup moins de terrain
qu'il y en a aujourd'hui. La saison 2 avait plus de terrain que la saison 1, et la saison 3 encore plus de terrain que la saison 2.
Je sens bien que tu préfères quand il y a beaucoup de terrain, mais, n'empêche qu'on n'est pas chez James Bond, et qu'il fallait installer cette espèce de quotidien dans une mise en scène, effectivement, volontairement sobre, une esthétique très froide, du bureau, du parking, de la cantine, mais d'où va jaillir le reste. Mais bon, on n'est pas chez James Bond, ouais. Mais
moi, c'était ce qui m'avait empêché d'être complètement emporté par la saison 1.
Pas moi.
On a le droit de ne pas être d'accord. C'est le but de cette émission aussi. J'avais vécu moi la première saison comme une forme de manifeste narratif et visuel, doublé d'une introduction à une série plus efficace et prenante, qui pour moi est arrivée en saison 2. Je suis le seul autour de cette table qui s'est dit que la saison 1 était un peu difficile.
Voilà. Moi, je suis pas du tout d'accord, mais je pense que t'as été un peu élevé à 24 et Homeland, peut-être. Donc, t'es habitué à des séries d'espionnage avec beaucoup d'action, ce qui est vraiment, en effet, le Bureau des légendes.
Mais j'ai adoré Rubicon.
Oui.
Un truc où c'est un mec qui fait des mots croisés.
Oui, je ne sais pas pourquoi, alors. Mais c'est vrai que c'est l'antithèse de Homeland et de 24.
Pour moi, c'était trop raide. C'est ça qui m'embêtait. Il y avait une raideur qui s'est ensuite dissipée dans les saisons suivantes.
Je trouve pas. C'est vrai que c'est une série vraiment d'espionnage pur à la John le Carré, La Taupe. Etc. Mm-hmm. Ça va vraiment dans ce sens-là. Après, c'est un thriller psychologique. Donc, en effet, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas d'action. Mais moi, j'ai trouvé ça, la première saison, passionnante. Je trouve qu'après, en effet, pour des raisons certainement commerciales, parce qu'on lui a demandé de mettre un peu d'action, de faire sortir ses agents, il a dû rectifier un petit peu la barre.
Mais quand je suis critique avec la saison 1, c'est au bon sens du terme. C'est-à-dire, je veux dire, c'était une façon de poser son monde, de poser ses ambitions, de dire on n'est pas là pour être spectaculaire, même si au fur et à mesure, on le devient de plus en plus spectaculaire. Et dans cette saison 3, il y a des vraies séquences d'action spectaculaires. Le mot est un peu fort, parce qu'on n'est pas dans 24 heures chrono non plus, mais il y a de l'action. Et c'était une façon pour lui de dire je vais laisser mes personnages habiter dans ces locaux de la DGSE, avoir ces longues discussions, me parler de trucs techniques, du petit jeu des espions, etc. Et pour moi, c'est parce que la saison 1 était telle qu'elle était, que la saison 2 a été une totale réussite, et que la saison 3, en tout cas les épisodes que les journalistes ont pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la quasi-totalité de la saison 3, est vraiment à la hauteur de la saison 2, donc toujours excellente. Donc voilà, c'était une critique constructive que la mienne.
Oui, mais enfin moi je suis pas vraiment d'accord. Okay. Moi je trouve vraiment que la saison 1 est excellente, parce que là en effet il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de coup de feu, etc. Et je pense qu'après c'est une obligation en effet commerciale. La saison 2 a beaucoup mieux marché. Et on lui a dit, c'est pas possible, tu peux pas faire toute ta série sur un ressort psychologique unique sans faire sortir tes agents. Je pense que vraiment, on l'a remis sur les rails en lui disant, c'est bien, les critiques aiment bien, mais il faut que tu nous fasses un truc plus punchy, quoi.
Est-ce que ce souci de sobriété, Marion, est toujours présent, a toujours été présent depuis le début? C'est-à-dire que même dans cette saison 3, il y a une forme de sobriété, il y a une forme de sérieux dans cette série, et on ne glissera jamais vers 24 heures chrono, comme vous le disiez tout à l'heure.
On glissera peut-être pas forcément vers 24 heures chrono, mais c'est vrai qu'au début, on sentait vraiment beaucoup plus normal, c'était la première saison, cette volonté de réalisme. Il a même de toute façon montré les saisons aux vrais agents de la DGSE qui, d'après les retours, ont trouvé que c'était vraiment une série ultra réaliste et ils étaient heureux de pouvoir montrer ça à leurs proches pour montrer ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc effectivement, la première saison, vraiment... C'est pas spectaculaire, mais en fait c'était génial de voir ces gens dans des bureaux où on a l'impression qu'ils font rien et qu'ils sont en train de faire les secrétaires, alors qu'en fait ils sont en train de gérer une crise incroyable en Syrie. Donc ça c'était vraiment vraiment bien. La série après elle est montée en puissance, peut-être effectivement pour des raisons commerciales, mais aussi parce que si on était resté dans ce truc très austère où on voyait pas les autres agents sur le terrain, ce qu'ils étaient en train de faire, comment ils risquaient leur vie là-bas et comment ils protégeaient leur légende ou comment ils stressaient, du coup, on aurait peut-être aussi pensé que la série, elle n'évoluait pas. Alors que là, pour moi, il y a une vraie évolution qui n'est pas négative.
Une mise en danger progressive des personnages.
Oui, voilà. Mmh. Entre la première, la deuxième et la troisième, il y a d'ailleurs des personnages qu'on pensait être des gens de bureau qui ne sortiraient jamais, qui sont sortis et qui se sont trouvés sur le terrain dans les saisons 2 et voilà.
Est-ce que la technicité de cette histoire, on en a dit que Rochon a fait un travail de recherche et de préparation très très grand depuis ses films et encore pour la série. Est-ce que cette technicité est peut-être fatalement anti-romanesque ou au contraire? Le côté technique, le détail du jeu des espions, les termes, etc., fait partie du romanesque de la série.
La technicité est quand même secondaire, pour moi, dans la première saison.
Je parle de toutes les saisons maintenant, j'inclus.
Oui, c'est-à-dire que quand tu dis que la saison va être plus technique, plus sobre, en fait, la première saison est incroyablement romanesque, c'est même la plus romanesque des trois. C'est une histoire d'amour, la première saison, c'est vraiment Malotru, savoir est-ce qu'il va trahir son pays pour une femme, pour une histoire d'amour, alors que les saisons 2 et 3 ont moins ce côté romanesque que la première.
On est plus dans un engrenage d'espionnage technique, politique, géopolitique, etc.
Donc pour moi, ça n'empêche pas. Il faut que ça reste, en effet, la technicité, ça doit rester secondaire, ça ne doit pas empêcher de suivre le débat.
Enfin, il y en a quand même beaucoup, effectivement, dans la saison 1. Mais c'est ça qui est assez passionnant, c'est-à-dire que c'est nous emmener là où on n'est jamais allé, où on n'ira jamais, et nous faire comprendre comment des choses fonctionnent qui
le
sont
petit
a
jeu des
cachées.
Espions, quoi. Et en plus, c'est un vrai outil comique, je trouve, moi. C'est-à-dire que c'est aussi, ça en devient drôle à force d'être leur petit nom. Ils ont des noms à d'autres trucs, etc.
Degré, ah oui, il y a de l'humour en fait, je trouve quand même. Ils sont tout le temps sérieux, mais en fait, dans leur manière de jouer, d'interpréter ou de faire un peu la poker face, il y a des moments qui sont drôles, et ça, ils s'autorisent ça de plus en plus. C'est là où je me suis dit, peut-être là ça commence à être un poil moins réaliste, les scènes de bureau dans cette saison 3 où on a, je veux pas spoiler, mais on a deux personnages qui sont dans une relation amoureuse, et on les voit faire des choses et se comporter d'une manière dans le bureau où moi j'imagine pas trop ça en vrai en fait.
On va développer tout de suite un peu plus cette saison 3 du Bureau des Légendes.
Vous allez me dire que je vais rencontrer maintenant? C'était pour éviter les fuites. On ne peut pas négocier la libération de Paul si ça ne reste pas totalement secret.
Shahan,
il est en contact direct avec l'État islamique. Il leur achète des œuvres d'art pillées sur le terrain. C'est probablement le plus gros trafiquant à l'heure actuelle.
Il était conservateur du musée de Damas.
Faut croire qu'il gagnait pas assez.
On se connaît du temps où j'enseignais à l'université de Damas.
C'est pour ça qu'on vous a contacté. Shahana est extrêmement méfiant. Vous, il vous recevra peut-être.
Pourquoi il nous aiderait à libérer Paul?
Pour l'argent. Pour s'acheter une protection quand la défaite de l'État islamique arrivera.
Alors évidemment, on l'a déjà dit, cette saison 3 est encore plus sur le terrain. Est-ce que pour vous, la série est aussi bonne sur le terrain que dans les bureaux? Quel équilibre est nécessaire selon vous? Et qu'est-ce que ces deux dimensions, en quelque sorte, apportent chacun au récit de la série? Parce que ils sont complémentaires, mais c'est vraiment très différent quand on est au sein du bureau, dans ce lieu clos, ce décor de cinéma presque, et le terrain qui est beaucoup plus cru, même d'un point de vue de la mise en scène, de l'interprétation, tous ces deux mondes qui se répondent littéralement.
Oui, et qui sont complémentaires. Si on veut parler de la saison 3, moi je trouve qu'au début, en tout cas sur le terrain, je suis moins convaincue. C'est-à-dire qu'il y a un peu des dialogues et des situations qui semblent un peu par rapport à la dangerosité de la chose. Enfin, je parle là avec les combattants kurdes. Voilà, si j'ai un petit bémol, moi c'est là-dessus. Donc aussi bonne sur le terrain qu'au bureau, peut-être pas forcément. Maintenant, oui, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux puisque c'est les deux facettes du métier. Et puis parce que la série, c'est quand même, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe sur le double, donc il y a deux aspects comme un agent double.
Et c'est vrai
comme
que...
un agent et un agent double, c'est pas la même chose.
C'est vrai que pour le coup, le terrain apporte vraiment plus d'action et plus de tension. Enfin, alors évidemment, c'est toujours intéressant de voir la tension s'installer au sein du bureau lui-même. Mais là, cette saison 3, alors évidemment, on va pas rentrer dans le détail, mais le parcours de Malotru, de Guillaume de Bailly, est un vrai thriller de un vrai suspense avec des ficelles parfois d'ailleurs un peu plus grosses d'un point de vue romanesque.
Bah, tout à l'heure tu disais ça glisse pas vers 24, mais ça glisse clairement vers Homeland. Oui. Ça c'est une évidence. Moi personnellement je préfère les scènes de bureau. J'ai l'impression que là les scènes de bureau servent plus de transition aux scènes d'action et on pourrait presque les enlever et je trouve ça un peu dommage pour moi.
Oui, ça semble aussi, être un enfin, moi, j'étais pour la série de bureau aussi. Donc,
moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'ils ont trouvé un mélange qui est vraiment petit à petit qui s'est fait. Et en saison 3, je trouve très très bien ce mélange. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Les scènes de bureau sont très sympas, mais en même temps, j'aime beaucoup les. Voilà, quand ils font le. Comment on appelle ça? Le walk and talk ou quelque chose comme ça. Enfin, quand ils parlent.
Oui.
Et que, en marchant. Et que...
Les scènes de débrief, moi, je trouve assez intéressantes. Les scènes où on est dans le bureau et on suit l'action via les écrans informatiques, je trouve, apportent vraiment quelque chose à l'attention, ceci étant. Dit.
Et à côté de ça, il faut, enfin, les scènes qui sont à l'extérieur où on voit vraiment comment la personne, l'agent doit réagir sur le terrain. Je trouve effectivement, c'est deux univers totalement différents, mais qui se mélangent assez bien. Par exemple, on pensait à Homeland. Homeland, clairement, a choisi le terrain. Il y a très peu de scènes dans les bureaux où elles sont vraiment elles sont vraiment inexistantes quasiment. Bon, par contre, ça c'est un peu le risque. Faudrait pas non plus que le bureau des légendes devienne du pur Homeland et oublie son ADN de base.
Moi, j'ai toujours un problème avec les scènes de bureau. Là, on est radicalement pas d'accord avec Eric. C'est que je trouve que les scènes du bureau, alors, vraiment sont très intéressantes, mais du point de vue de l'interprétation en particulier, j'ai un problème. Je trouve les scènes de bureau raides et je trouve que ça joue moins bien quand ils sont face à face dans le bureau. Mais personne n'est d'accord avec moi autour de cette table. Mais moi, il y a quelque chose qui continue à me gêner. Je trouve les dialogues un peu mécaniques. La mécanique marche moins bien pour moi.
Moi, je trouve, il y a quand même toujours une espèce de petit, petit deuxième degré. Qui est là.
Oui, l'humour salvateur, effectivement,
mais pas un
est dans
humour.
Le bureau.
Alors, par moments, il y a des dialogues vraiment drôles et des répliques drôles, mais je veux dire que même quand c'est très, très sérieux, il y a comme... c'est comme la cravate de Darroussin, quoi. Il y a quand même toujours un petit truc qui fait que moi, je trouve pas ça raide et ça me passionne toujours autant, ça.
Moi, je trouve les acteurs, au contraire, qui sont dans les bureaux, extraordinaires. Darroussin est fabuleux. Il y a Gilles Cohen qui joue le directeur du renseignement, qui est fantastique. Moi, je trouve qu'ils ont, en plus, il y a une tension à chaque dialogue, à chaque confrontation dans les bureaux, moi je trouve ça passionnant vraiment.
Puisqu'on parle d'interprétation et on parle de dialogue aussi, parlons-en un peu plus à travers les différents personnages. Mathieu Kassovitz a une partition très intéressante depuis le début. Il est pas très bavard et du coup tout joue dans ses silences et dans un jeu très physique. Qu'en est-il dans cette nouvelle saison? On peut le dire sans trop spoiler, il est encore moins bavard, en tout cas au début. On peut dire qu'il n'a pas trop le choix.
Alors, moi, je suis encore pas d'accord, excuse-moi. Mais dans la première saison, il n'avait pas du tout un jeu physique. Au contraire, il devait rien montrer.
Mais c'est ça justement qui est physique. C'est-à-dire qu'il est obligé d'exprimer quelque chose sans rien bouger.
Non, il n'exprimait rien. Dans la première saison, il n'exprimait rien. C'est sa voix off qui permet de comprendre. C'est pour ça qu'il y a une voix off d'ailleurs dans la première saison. C'est-à-dire que physiquement, il n'exprime rien à personne. Il ne doit rien exprimer.
Lui-même.
Mais je vais chercher la petite bête. Mais moi, je trouve que ne rien exprimer, c'est exprimer quelque chose.
D'accord.
Mais
bon. Non,
c'est être un grand acteur. Mais c'est Kassovitz a plaisanté lui-même en disant, c'est très reposant de devoir jouer un rôle où il faut ne rien exprimer. Mais effectivement, faut pouvoir le faire. C'est dans les silences et dans ça qu'il est très très bon.
Ouais. Il exprime autre chose.
Dans l'attention du corps aussi, quand même. Il utilise beaucoup son corps, même dans les premières saisons. Il a une raideur, un truc. Qui frappe en fait, où on se dit ah oui c'est Malotru.
Pour le coup dans cette saison 3 c'est du Jack Bauer en fin de journée quoi.
Il va morfler là.
C'est limite un peu choquant. Enfin moi j'ai été un peu désarçonnée et choquée de le voir comme un Jack Bauer là, il encaisse les coups, on le voit jamais comme ça Malotru. En fait il arrive toujours à trouver une solution pour éviter d'en arriver là.
Depuis le début c'est quand même un mec super balèze. Enfin on sait depuis le début que c'est un super agent, donc c'est aussi intéressant de le voir pour le coup en train de morfler et de mettre en pratique. Mais d'ailleurs, il y avait dans la saison 1 une scène où il se prend une énorme raclée dans la rue et il ne bouge pas parce qu'il est obligé de préserver son identité. Et ça, déjà, ça en disait long sur sa capacité d'encaisser les coups. Sa voix off, tu l'as dit, Eric, a été supprimée. Moi, ça me gênait un peu en saison 1. C'était un détour. En saison 2, on l'entendait presque plus et là, c'est supprimé. Est-ce que c'est une bonne décision? Et pour toi, c'est logique, en fait, finalement?
Oui, c'est logique, puisque la première saison, c'était vraiment ses questionnements. C'est-à-dire savoir, comme lui ne montrait rien, il fallait bien, quelque part, que le téléspectateur comprenne un peu ce qui passait dans sa tête. Et comme toute la première saison est sur son histoire d'amour, est-ce qu'il va trahir ou pas, est-ce qu'il va tout lâcher pour cette femme, on est obligé en fait d'avoir cette voix off qui guide quand même le téléspectateur pour qu'on comprenne ses moments d'errement, ses doutes, etc. Comme après, à partir de la saison 2, le personnage même de Malotru est moins central, on voit beaucoup plus les autres agents et qu'il n'y a plus ce questionnement-là, c'est vrai que c'est normal à ce moment-là de supprimer la voix off.
Mais si je me souviens bien, la voix off était là, mais en fait on avait un espèce de flash forward au début de la saison 2, et en fait il était en train d'écrire une lettre, c'est donc on entendait
en voix off. Dans la saison 2, il écrit à sa fille.
Voilà, ouais, mais sauf qu'on ne le savait pas, ça. Il y a une voix off et on se demande à qui il est en train d'écrire. Mais
il écrit à quelqu'un, alors que dans la saison 1, c'est effectivement... Exactement ce que vient de dire Eric, oui, c'est-à-dire qu'il explique et que ça semble assez dans la logique de l'évolution du personnage que cette voix disparaisse.
Alors, sans entrer dans les détails pour ne rien spoiler, que dire de Sarah Giraudot, parce qu'on n'a pas parlé d'elle depuis le début, on a parlé de Daroussin. C'est très intéressant ce que son personnage, et c'est là qu'il faut qu'on soit prudent sur les spoilers, est réorienté en quelque sorte. Et moi, ce qui me fascine à propos de ce personnage, c'est que c'est la fragilité absolue au service du renseignement. Donc finalement, elle devient sa propre légende, et c'est ça qui est fascinant, c'est la fusion des identités, je trouve.
Oui,
vous êtes d'accord. Et ben c'est super.
L'actrice est étonnante, faut dire. On a rarement vu un personnage comme ça à la télévision, aussi fragile, aussi complètement décalé. On a l'impression qu'elle joue pas. On sait au début, c'est déroutant. Ah,
oui. C'est-à-dire que elle a ce côté-là. En fait, elle est pas fragile du tout, d'ailleurs. Mm-hmm. Elle est très forte. Mais c'est.
Elle donne cette impression.
Mais dans son jeu, il y a ce truc-là, et il y a le fait que ça soit son métier aussi d'être dans ce double truc où on s'est plusieurs fois dit, oh là là là, elle va craquer, et en fait pas du tout. Et oui, elle est très bonne actrice, et c'est un personnage très intéressant.
Oui, son personnage, en fait, justement, c'est comme ça qu'il arrive à attirer un peu toutes les personnes qu'elle peut approcher, parce que c'est une petite nénette qui paraît comme ça, un peu faible et mignonne avec sa petite voix, et donc la personne en face se dit jamais, cette personne-là va me manipuler ou jouer un double jeu. Donc c'est sa force, en fait, de paraître faible.
C'est intéressant dans cette saison 3 que, pour le coup, et ça se passe dans les deux premiers épisodes, donc pour le coup, elle est en position, ou alors c'est un jeu depuis le début, mais ça, on l'apprendra peut-être plus tard, mais a priori, non. A priori, elle est vraiment en position de fragilité.
Bah, là, en fait, elle fait face au syndrome stress post-traumatique. On a essayé de l'assassiner en Iran, elle a cru qu'elle allait mourir, et elle a des séquelles, et il faut qu'elle gère ça. Mais pour moi, c'est pas, ça veut pas dire qu'elle est faible, en fait. C'est juste qu'elle a ce syndrome-là, voilà, de PTSD, les soldats quand ils partent dans des guerres et qu'ils font des... Il leur arrive des choses horribles.
Et c'est vrai que c'est un peu l'objectif de Rochand, de faire évoluer un peu tous ces personnages qui restent pas dans le cadre qui était leur au début. Donc on voit tout ce qui change plus ou moins.
Et c'est très fort dans cette saison 3.
C'est vraiment
le cœur de cette saison 3, c'est ça. Le Bureau des légendes continue par ailleurs. C'est une de ses principales qualités, à mettre en scène un monde crédible, celui de la lutte antiterroriste. Mais là aussi, dans cette saison 3, alors il y a tout un tas de choses intéressantes sur la Syrie, sur la reconstruction de la Syrie, etc. Est-ce qu'on peut continuer à parler justement de la justesse? Moi, je trouve que la saison 2 était particulièrement juste sur la discussion sur les jeunes qui vont faire le djihad, etc. Là, cette saison 3 parle de la reconstruction, mais par ailleurs, on l'a dit, sur le terrain, et s'Homelandise, même si Homeland est une des séries les plus pertinentes qui soit en ce moment sur l'observation de la lutte antiterroriste. Où est-ce qu'on se tient là, d'un point de vue de la crédibilité de l'actualité du monde et du côté plus romanesque où on se prend des libertés avec la Syrie, la situation, l'État islamique, etc.
Alors, pour moi, la série n'est pas une série politique depuis le départ, c'est une série d'espionnage. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de géopolitique, c'est-à-dire que ça se passe dans un monde, en effet, où il y a les conflits actuels, mais il n'y a pas vraiment de questionnement, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, est-ce que c'est une bonne guerre, est-ce que c'est une mauvaise guerre, où ça va aller, pourquoi, etc.
Enfin, c'est pas le... Je ne suis pas trop d'accord.
Si, un peu quand même, mais on est juste à la bonne, je sais pas comment dire, frontière ne va pas être très, très adaptée là, mais entre justement ce qui pourrait être trop proche de l'actualité et qui risquerait de enfin de pas fonctionner ou de d'être à l'encontre de la réalité. Mais quand même, il y a ça en toile
de fond.
Il y a le géopolitique sur la série. À un moment donné, pendant 5 minutes, il t'explique où est Daesh, où sont les sunnites, où sont les chiites, où sont les kurdes dans cette histoire.
Mais ce que disait Eric, c'est qu'il n'y a pas finalement de point de vue.
Contrairement à Homeland, par exemple, qui est vraiment une série patriotique pour le coup. Où il y a vraiment les...
Ouais, la dernière saison, ils remettent quand même sérieusement en compte...
Sauf la dernière saison, mais jusqu'à présent, c'était quand même une série très patriotique avec les bons, les méchants. Là, c'est pas vraiment le sujet de cette série.
Non, il n'y a pas de discours, effectivement, va-t'en guerre ou de choses très patriotiques. Mais enfin, ça, c'est français aussi. Hein.
C'est vrai que c'est intéressant, tout le travail sur le terrain syrien est assez intéressant sur montrer comment, finalement... C'est non seulement une guerre compliquée, mais c'est un futur qui l'est encore plus. Oui. Et que finalement, toutes les factions en jeu vont avoir beaucoup de mal à s'entendre. Et c'est vrai que c'est une vision assez terrifiante de l'avenir de ce pays qui est montrée. Alors encore une fois, c'est pas une série géopolitique, mais c'est une série qui quand même met le doigt sur quelques questions intéressantes, moi je trouve, du point de vue de la géopolitique.
Pour moi, ça reste secondaire. C'est vraiment le destin des personnages, c'est-à-dire que c'est savoir est-ce qu'ils vont réussir à mettre une taupe. Est-ce que la CIA va réussir à mettre une taupe dans la DGSE? Est-ce que la DGSE va réussir à mettre une taupe en Iran? Le contexte sert juste de contexte, en fait.
Mais sans contexte, même si c'est en toile de fond,
ça parle du nucléaire, ça parle de plein de choses.
Ça nous parle de plein de sujets sociétaux. En plus, ultra complexe là, la situation de la Syrie. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert pour savoir si c'est vraiment réaliste certaines scènes en fait, vraiment de cette saison 3. Moi, ça me paraît assez pertinent ce qu'ils ont fait.
On a beaucoup parlé du mode de production de la série. Il faut y revenir quand même. Le Bureau des légendes est produite plus vite que la plupart des séries françaises, au sens où elle est en flux tendu chaque saison, avec une équipe de scénaristes, des bureaux proches des plateaux, etc. Une machine industrielle qui fait la différence, chers amis. Et comment fait-elle la différence? Alors c'est presque une émission entière pour parler de ça, parce que c'est une des thématiques importantes de la fiction française aujourd'hui. Mais ça joue. On a parlé du fond. Parlons rapidement de comment c'est fait. Ça c'est un rôle clé dans l'efficacité de la série. Au bon sens du terme, parfois efficacité, ça veut dire que ça va vite et qu'il se passe plein de trucs. Là, c'est aussi que c'est rondement mené.
La production est efficace, parce que c'est un mode de production à l'américaine avec une équipe de scénaristes et on peut dire que Rochon est un showrunner, ou en tout cas il fait de la série d'auteur en bon français, et que pendant qu'une série est tournée, une saison pardon, la suivante est en écriture, enfin toutes les phases d'écriture, de tournage, de montage, au bout de la deuxième saison se chevauchent, et ce qui fait qu'on peut livrer une saison par an. Et pour une série comme ça, c'est d'autant mieux que c'est quand même un peu aussi une série un peu compliquée, hein. Donc il faut.
Oui, si on laissait passer 3 ans entre chaque saison,
3 ans entre chaque
paumé,
saison, il faudrait recommencer à regarder la première.
Et en plus,
ce qui lui permet effectivement.
Rochon explique quand même qu'il a dû se battre pour arriver à ce mode de fonctionnement, que ça a été très très difficile à produire cette saison. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même divisé la production en deux. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui tourne en France, à Paris, pendant qu'il y en a une autre qui tourne au Maroc. Au Maroc. Donc il y a vraiment, ils font deux choses en même temps pour pouvoir livrer les...
Évidemment, c'est rentabiliser le bureau lui-même et se rentabilise, parce que c'est le même qui est réutilisé toutes les saisons. C'est une bonne vieille méthode. Non, mais ça compte aussi, c'est important, je pense. Alors ils ne font pas The Office non plus, mais ça joue.
Oui, c'est à la Cité du Cinéma qu'ils ont construit ça. En fait, ils la reprennent chaque année. C'est vraiment industrialisé, en fait. Mais en plus, ça devrait même pas être... moi, ça me paraît pas illogique, en fait, que il y ait deux sets de tournage différents. Enfin, quand on pense à deux séries, il y en a 5 ou 6.
Ça veut dire que...
C'est juste que pour la France, ça paraît
dingue. Genre sur Sense8, il y a 42 équipes dans 32 pays différents.
Game of Thrones, n'en parlons pas.
Et ça veut dire que Rochon réalise pas tous les épisodes.
Ça veut dire qu'il a lâché l'affaire sur ce que des auteurs de séries comme
ce que j'appelle le système à l'américaine, mais
comme un Fabrice Gobert.
Il réalise même pas un seul épisode.
Alors là, c'est une question piège.
Il dit qu'il a tourné quelques séquences dans différents épisodes.
Il garde la main en tant que producteur exécutif, comme on dirait.
De toute façon, et puis
c'est sa série, on peut le dire. En France, il y en a pas beaucoup qui peuvent dire c'est ma série. C'est plus difficile.
Pas forcément tous les épisodes.
Une dernière question, une saison 4 devrait suivre l'an prochain, en tout cas si c'est pas déjà signé, ça se discute très sérieusement. Peut-être un remake US, il y a aussi des bruits qui disent que c'est en train d'être plus ou moins en discussion aussi. Est-ce que la série peut durer ou est-ce que finalement on va arriver un moment où Malotru est passé par les différentes phases de son évolution. Il faudrait pas que ça dure 5 ou 6 ans parce que finalement ça serait tiré à la ligne. Et peut-être que si une quatrième est envisageable, déjà 3 ça semblait être un bon triptyque. On n'a pas fini cette saison 3 hein, ici autour de la table, donc on peut pas dire comment ça va se terminer. Mais est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir durablement pour cette série ?
Moi, je pense que oui, parce que le concept est un peu comme celui de Homeland, c'est-à-dire que
Homeland a galéré pour se réinventer.
Oui, bien sûr, mais justement, elle a réussi à le faire parce que il suffit d'avoir des bons scénaristes en fait et de s'entourer des bonnes personnes, de renouveler les personnages. Moi, je suis toujours surprise et vraiment, je trouve ça super en fait. Dans le Bureau des légendes, chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveaux personnages et la plupart sont réussis. Attachant, on a envie de les suivre aussi, ceux-là. Oui. Donc en fait, il peut y avoir peut-être des saisons où Malotru sera un peu plus en retrait et on donnera un peu plus de place aux autres.
J'en rebondis juste, attends, pardon, sur ce que vient de dire Marion. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je voudrais juste glisser comme ça que je trouve qu'il y a des personnages, des troisièmes, si j'ose dire, qui sont vraiment, qui sont super. Il y avait Pépé et Mémé avant, et maintenant il y a la mule, si je dis pas de bêtises, qui sont des personnages qui ont une scène par épisode, mais à chaque fois tellement pertinente et juste. Voilà, il y a des petites choses qui sont vraiment très très bien vues. Pardon, Eric.
Oui, comme tu disais, c'est-à-dire que c'est, contrairement à Homeland, ça joue moins sur un personnage. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer Homeland sans Karim Matheson. Là, par contre, c'est tout à fait possible que Malotru meure à la fin de la saison 3.
Nous, on
ne sait pas. Hein, c'est pas un spoiler. On sait pas du tout.
On sait pas.
Mais on peut tout à fait imaginer une saison 4 sans lui, avec d'autres agents qui sont déjà là, d'ailleurs. Mm. Ça poserait, à mon avis, aucun problème scénaristique. Donc, je pense qu'en effet, la série peut se renouveler aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout est possible.
Oui, et je pense que Rochand en a envie. Il l'a dit lui-même. C'est-à-dire qu'il dit on commence à faire une série au bout de 3 saisons. Donc oui, tant qu'il en a envie et que c'est possible et qu'on garde ce niveau-là, moi je signe aussi.
Moi aussi, je signe. Et on referme là-dessus cet épisode 22 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle que le Bureau des Légendes saison 3 est à voir sur Canal+, le lundi soir en première partie de soirée. Merci à Marion Olité de Combini, à Nelly Gond des Fiches du Cinéma et Eric Bouche de Téléstar. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio, à commencer par Jules Cros comme toujours aux manettes. Merci enfin à vous qui nous écoutez et à ceux qui se sont déplacés pour nous écouter. Écoutez, enregistrer cette émission dans le 11e arrondissement parisien à l'antenne. Merci à vous. La semaine prochaine, on reste en France pour parler d'une série plus modestement financée mais très ambitieuse, Mission Exploration Martienne Intimiste et Fantastique. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. La CS et son podcast Un épisode et j'arrête sont sur Facebook et Twitter. Et chaque nouveau like nous comble de joie. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.